Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h21, merci d'être avec nous. Nous sommes avec le docteur Laurent Toubiana. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur épidémiologiste à l'INSERM et l'un des signateurs d'une tribune dans Le Parisien intitulée « Covid-19, nous ne voulons pas être gouvernés par la peur ». Et quand on disait que finalement vous étiez plutôt du côté des gens qui rassurent plutôt que des gens qui sont alarmistes, on ne se trompe pas.
Oui, non, on ne se trompe pas. Disons que l'idée première n'est pas de rassurer. L'idée première, c'est essayer de donner aux gens...
Un vrai constat.
Pas un constat, plus essayer de comprendre ce qui se passe. C'est un peu ça le but, en tout cas mon but, c'est essayer de donner des éléments de compréhension. Donc c'est un peu difficile, effectivement, d'arriver avec un discours qui est tellement décalé avec ce qu'on entend depuis 6 mois, si vous voulez, ou 7 mois maintenant. Ce discours-là est très difficile à faire passer parce que justement, il y a un décalage.
Il paraît utopique.
Alors, c'est pas du tout utopique.
Non, mais paraît pour les gens utopique.
Ah oui, il paraît. Faut dire que les gens sont soumis quelque part à une forme de peur, et c'est d'ailleurs la tribune que nous avons signée, la première tribune que nous avons signée. Tourner autour de cette question. Et d'ailleurs, le titre était un peu ambigu, si vous voulez. Il y avait « gouverné par la peur », c'était les gens qui étaient gouvernés par la peur, et on était aussi gouverné par une forme de peur, c'est-à-dire que tout le monde a peur, et dans cette confusion généralisée, bien finalement, on applique quelque part bêtement le principe de précaution, c'est-à-dire, pour moi, le contraire de l'intelligence. Quoi. On applique bêtement, sans réfléchir,
oui, mais
un principe...
Alors, si on l'applique, c'est aussi peut-être parce qu'il y avait quand même la menace de... Et ce virus a quand même tué, quoi qu'on en dise. Quoi. Donc, il y avait cette menace et une part d'inconnu. C'est peut-être aussi pour ça que l'on a pris ces décisions et que l'on continue à en prendre aujourd'hui.
Alors, je peux concevoir qu'il y ait une part d'inconnu. Il se trouve que moi, j'avais publié un communiqué de presse où je disais exactement ce qu'allait se passer. Donc, en tout cas, pour moi, les choses étaient moins inconnues que pour beaucoup.
Pour beaucoup.
Et ce que j'avais dit, c'est produit exactement de la manière dont je l'ai décrite.
Oui, c'est ça, sur notamment la première vague, et puis là aujourd'hui,
sur la
ce
première
qui se
vague,
passe.
Oui.
Et là aujourd'hui, parce que vous avez dit encore récemment, le virus ne circule pas.
C'est un abus de langage, évidemment, parce que le virus circule toujours, mais à faible bruit, ce qu'on appelle, c'est-à-dire... il circule, mais très peu. Et d'ailleurs,
il circule beaucoup, mais il est peut-être moins...
Virulent.
Non,
pas du tout, je vais vous expliquer.
Oui, parce que là, on voit...
Si
12 000 personnes positives ces dernières 24 heures, alors je ne sais pas...
Vous posez plein de questions en même temps.
Bien sûr,
je vais essayer
sûr.
De serrer les questions. La première question sur les 12 000, là... Je me suis fait plus ou moins attraper par Libération parce que justement j'avais essayé d'expliquer que les chiffres quotidiens ne signifiaient rien puisque d'un jour sur l'autre il y avait telle fluctuation que c'était impossible de réfléchir correctement à ça. Donc en gros, si vous voulez, ces chiffres, d'abord, vous avez remarqué que nous sommes sous une sorte d'avalanche de chiffres, d'avalanche d'indicateurs, si vous voulez, à chaque fois qu'un indicateur ne répond plus finalement à la charge d'anxiété, eh bien on change d'indicateur. Au début, c'était les malades sévères hospitalisés,
Les morts.
Ouais. Et puis après, on a changé de proche en proche d'indicateurs jusqu'à aujourd'hui.
Sur ces 12 000.
Mais je n'ai pas répondu à l'autre question.
Sur ces 12 000, qu'est-ce que vous répondez ? Parce que vous dites, bon, le virus ne circule pas beaucoup. C'est ce que vous dites, alors, finalement. Chaque jour, il y a 5, 6, 8 000, 10 000 personnes qui sont testées positives. Alors,
c'est vrai qu'on teste
beaucoup plus, mais...
Oui, c'est ça. D'abord, la première chose à faire, c'est de mettre un dénominateur. On peut pas... Et le dénominateur, c'est 1 million de personnes. Mais au-delà de tout ça, ce que je peux vous dire, c'est qu'au final, sur les... plus de 10 millions de personnes que l'on a testées, seulement 4% à l'heure actuelle sont positives. Et sur ces 4%, il y a 95% de gens qui ne sont pas malades. Donc, si vous voulez, il y a 99,7% de gens qui sont ni positif, ni malade. Donc, si vous voulez, si tous ces tests servent à quelque chose...
Pas 99,7% qui sont ni positifs ni malades. Il y en a un peu plus de positifs, quand même, quoi. Non ?
Non, positifs, ni positifs, ni malades.
Oui.
Hein, d'accord ? Ils sont positifs, mais non malades.
Mais non malades, voilà, d'accord, c'est ça.
Asymptomatiques.
Asymptomatiques, c'est-à-dire que je considère qu'une épidémie, et tout le monde devrait considérer ça, une épidémie, c'est lorsqu'il y a des malades sévères, et lorsqu'il y a des morts, d'accord, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est
ce qu'on. Là, il y a quand même des malades. Non, mais il y a des malades et il y a des morts quand même,
mais
non.
On a
plus d'un million de morts en fait dans le monde, c'est ça.
Mais un million de morts dans le monde.
Non, mais
nous sommes 8 milliards. Alors un million. Alors, écoutez, encore une fois, j'ai pas envie de me faire attraper par si vous voulez la. Les pleurades, etc.
Non, mais c'est pas ça, mais on a envie de vous entendre
et
de comprendre, quoi,
oui,
justement.
Mais, écoutez, il y a 1%, en gros, d'une population qui meurt tous les ans. Mm-hmm. C'est-à-dire que, en gros, en France, nous sommes 67 millions. L'année dernière, il y a eu 660 000 morts en tout. Sur ces 660 000 morts, il faut rapporter les 31 000 morts du Covid, à ces 660 000 morts, est-ce que les gens morts du Covid font une surmortalité en France? On pourra en parler, mais on sait d'ores et déjà que ça ne fait pas une surmortalité en France.
Pour vous couper, ce matin, on a eu quelqu'un, un auditeur au téléphone, qui disait qu'effectivement, il y avait 3 personnes qui étaient rentrées à l'hôpital, qui n'étaient pas du tout liées au Covid. Ils ont été testés positifs sur place, mais ça n'a rien à voir avec le Covid. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là vont rentrer dans les quotas de gens qui ont des lits à l'hôpital, alors qu'à la base, ils ne sont pas rentrés pour ça?
Très probablement, mais ça, il faudra le poser à des gens qui sont... Pour une fois, vous pourriez poser cette question à un hospitalier, il pourra vous répondre là-dessus. Moi, je suis épidémiologiste et parfois, les médecins parlent d'épidémiologie alors qu'il ferait mieux de parler de répondre à ce type de questions-là. Je pense que chacun doit rester dans son domaine de compétences. En l'occurrence, moi, c'est l'épidémiologie. Donc, il est probable qu'il y ait des erreurs de comptage de ce type-là. On sait très bien que les gens qui ont été comptés comme Covid-19 avaient des comorbidités connues. Je veux dire, maintenant, c'est impensif ce que je suis en train de dire.
Kenzo, par exemple, qui est mort, le grand couturier ce week-end, bon, visiblement, c'est lié au Covid, quoi. 81 ans, donc...
81 ans, il faudrait... là, si vous voulez, nous sommes sur des cas particuliers. Il faudrait savoir de quoi était-il malade.
Il n'était pas malade. Mais
n'était
donc
pas
il aurait...
du tout malade.
Visiblement, il a eu
le
Covid.
Ça arrive, mais les facteurs de risque concernant le Covid-19 sont tout à fait autres. En réalité, on sait très bien que, effectivement, d'ailleurs, l'âge est un facteur de risque. Hein,
ouais,
81 ans, effectivement, ça paraît jeune maintenant, mais, mais j'aime autant vous dire qu'il y a à peine... 50 ans, c'était
un
super vieillard.
Oui, même 20 ans, 30 ans. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Allez, on va continuer dans un instant avec vous. Le docteur Toubiana est avec nous, chercheur épidémiologiste à l'INSERM. Il se veut plutôt rassurant, entre guillemets, par rapport à la circulation en fait, du virus. Que va-t-il se passer? Lui, comment voit-il les choses en fonction justement de son expérience d'épidémiologiste, puisqu'il étudie ça, et notamment sur la grippe depuis des années. On lui pose toutes les questions. On est quasiment ensemble jusqu'à 10h, et vous aussi.
Au 0826-300-300. On revient tout de suite. Il est 9h29.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h32, notre invité ce matin, c'est le docteur Laurent Toubiana, chercheur épidémiologiste à l'INSERM, l'un des signataires de la tribune dans le Parisien intitulée « Covid-19, nous ne voulons pas être gouvernés par la peur ». Et vos appels ce matin, 0826-300-300.
Oui, on ira tout à l'heure au standard. Alors, docteur Toubiana, vous dites qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Expliquez-nous pourquoi.
Oh ben, il y a de très nombreuses raisons. Je vais vous en donner une tout de suite pour l'évacuer. C'est que dans toutes les épidémies modernes que l'on connaît, on va prendre le Zika par exemple, H1N1, pas de deuxième vague, MERS, pas de deuxième vague, SARS, pas de deuxième vague. En fait, la notion de deuxième vague est une théorie qui est possible et qui vient probablement du fait qu'il existe une forme de récurrence dans certaines maladies. Par exemple, la grippe, hein, pour ne prendre qu'elle, il y a une saisonnalité de la grippe. Mais il faut dire que les grippes que l'on voit en général, ce sont des virus différents, c'est-à-dire des virus qui ont changé au cours du temps et il y a un grand nombre de virus qui circulent pendant une épidémie de grippe. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment, eh bien, il y a une partie de la population qui est touchée par les nouveaux virus. On peut dire ça comme ça. Mais là, le virus du Covid, le SARS-CoV-2, lui, a priori, ne mute pas, n'a pas muté pour l'instant. Il y a des petites mutations, mais et d'ailleurs, j'aime pas trop parler de la notion de mutation parce que ça fait référence à des mutants et les mutants, c'est très anxiogène en général. Donc, il est possible que ça mute légèrement sur les bords, si vous voulez, mais globalement, c'est à peu près le même virus.
Bah oui,
et si, à tout hasard, le virus devait muter fortement, nous ne parlerions plus alors de la même épidémie. Ce serait une autre épidémie, avec un autre virus.
Oui, mais si on dit en fait qu'il n'y a pas de deuxième vague, quand même, on a eu des morts pendant, en France au mois de mars et au mois d'avril, au mois de mai, hein, pendant un petit bout de temps. Ensuite, il y en, effet ou pas du confinement, il n'y a pas eu de mort pendant l'été. Là, il y a de nouveau des morts qui reprennent et des gens qui sont un peu plus hospitalisés en réanimation. Oui, comment vous l'expliquez? Comment vous le définissez, ça, en fait, quoi?
Écoutez, il faut qu'on réfléchisse un petit peu à comment ça se passe dans une épidémie.
Oui.
Je vais essayer de vous rappeler quelque chose. Pendant la montée de l'épidémie, la première vague, ça a duré en tout et pour tout 4 semaines. Le niveau de démarrage de cette vague, en termes de mortalité, mais en termes d'hospitalisation, tout ça, était le même que celui que nous avions il y a 3 semaines. D'accord ? En France, nous avions le même niveau il y a 3 semaines qu'au début de la première vague. D'accord ? Lorsque la semaine suivante de la première vague, le nombre global d'incidents, c'est-à-dire mortalité ou hospitalisation, avait été multiplié par 300%. D'accord ? Nous, à l'heure actuelle, entre le même niveau et la semaine suivante, ça a été multiplié par 19%. Ça veut dire que pendant une semaine, il y a eu une augmentation telle que, si on prenait la même augmentation maintenant, il faudrait qu'on soit... Pour arriver au même niveau, il faudrait qu'on soit autour du 15 janvier, si vous voulez. Vous voyez la lenteur avec laquelle on est, la progression est ultra lente, si vous voulez. Et donc, on ne peut pas, a priori, parler de vague épidémique lorsqu'il faut 3 à 4 mois pour atteindre le niveau qu'on avait atteint en une semaine au moment de l'épidémie.
Mais Laurent Toubiana, s'il n'y a pas de mesures prises, là, je vous pose la question, moi j'en sais rien, mais s'il n'y a pas de mesures prises, est-ce que ça veut dire que le virus ne va pas davantage circuler et toucher davantage de personnes et on va revenir un peu à ce niveau?
Écoutez,
les personnes plus fragiles.
Il ne vous a pas échappé que, d'abord je rappelle encore une fois, puisque je l'ai dit tout à l'heure, une épidémie, ce sont des gens gravement malades et des gens qui meurent. D'accord ? C'est ça une épidémie. Il existe des épidémies de rhume, si vous voulez, mais on n'en parle pas, je ne sais pas pourquoi. On n'en parle pas parce que, finalement, en tout cas, on n'arrête pas l'économie pour ça.
Ouais. Hein, on meurt du rhume ?
Non, on ne meurt pas du rhume. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que ça ne fait pas grand-chose. Donc, occupons-nous de ça. C'est ça l'indicateur principal. Ce truc-là, si vous voulez, a touché à peu près, pendant la période épidémique, environ 100 000 personnes. C'est-à-dire que 100 000 personnes ont été hospitalisées pendant cette période-là. Mais ça ne veut pas dire que tous les autres, tous ceux qui avaient moins de 65 ans, n'ont pas été exposés au virus et n'ont pas fait une forme soit bénigne, soit pas du tout de forme. Et finalement, ces gens qui ont été exposés au virus et qui ont lutté contre le virus forment quelque part une sorte de barrière immunitaire, ce qu'on appelle l'immunité grégaire ou l'immunité collective.
Et
si vous voulez, il y a une réponse éclatante à ça, c'est le déconfinement. Lors du déconfinement, on s'attendait tous à avoir une deuxième vague, non ? Mais qui nous a expliqué pourquoi la deuxième vague n'est pas venue ? On nous avait, des épidémiologistes nous avaient prévu 650 000 morts avec masque et mesures barrières.
Mais justement,
on n'a rien eu du tout. Et pourtant, les gens se sont mélangés, on peut dire. Il y a eu des manifestations, il y a eu la fête de la musique, il y a eu les vacances, il y a tout eu. On nous a promis la deuxième vague tout le temps, si vous voulez. Tout au long de cette épidémie, on nous promet l'arlésienne, c'est-à-dire celle qui ne vient jamais. Et pour cause, elle ne vient jamais parce que la notion d'immunité collective, mais on l'a déjà atteint depuis longtemps. Sinon,
vous
on aurait
croyez,
déjà...
Ouais, qu'on a... ouais, c'est
mais
ça,
bien
c'est...
sûr, ouais. Évidemment, tous ces gens, tous ces jeunes en bonne santé, etc., protège quelque part le reste de la population parce qu'ils ont probablement été en contact avec le virus et ont lutté contre ce virus. Ouais. Ils se sont habitués
mais
à vivre
mais
avec...
Mais oui, mais ça les a pas empêchés de transmettre. C'est-à-dire que c'est pas parce que eux, leur immunité
oui,
a travaillé...
Oui, mais ça s'est passé pendant la première vague, si vous voulez. Ouais. Ça s'est passé pendant la première vague, cette affaire-là.
Oui, mais confinement, bonne ou mauvaise solution, finalement ?
Le confinement, moi, au moment où j'ai appris ça... Je me suis dit, mais attendez, ils sont complètement fous. Ça n'existe pas en épidémiologie. En lutte contre la diffusion des épidémies, le confinement, c'est une innovation, ça, le confinement, si vous voulez. C'est
en Asie, ils le font. En Asie, ils le font un peu et ça marche, visiblement,
où,
non ?
Où le font-ils ?
En Chine, ils
en
l'ont
Chine,
fait.
En Chine, ils l'ont fait, mais vous avez remarqué que la Chine, ce n'est pas tout à fait la même chose
d'accord.
que les pays démocratiques.
Ouais.
Bon, donc, ils l'ont fait. Et d'ailleurs, je vous signale que certains épidémiologistes avaient déjà prévu en Chine une seconde vague. Est-ce qu'il y a eu une seconde vague en Chine ? Dès la après 50 jours, il y avait déjà des gens qui publiaient dans le Lancet le fait qu'il y aurait probablement une deuxième vague en Chine. Non. Mais à part la Chine, vous avez d'autres exemples de...
En Corée, donc.
Ils ont fait autre chose.
Ils ont fait autre chose,
Ils ont fait vraiment autre chose.
Ouais, ouais. Beaucoup d'appels, oui.
Ouais, 0826 300 300. Cédric est avec nous, il nous appelle de l'Aude. Bonjour Cédric.
Bonjour Cédric.
Oh,
oui.
C'était assis sur son téléphone. Bonjour Cédric.
Allez-y, posez votre question parce qu'il y a beaucoup d'appels. Oui, allez-y Cédric.
Bonjour.
Bonjour.
C'est pas Cédric, pardonnez-moi, c'est Chris.
Chris, oui.
Alors. Oui, voilà. Alors mon sentiment, c'est celui d'un citoyen lambda qui observe les choses et qui écoute les informations avec beaucoup de calme depuis quelques semaines.
Oui.
On nous raconte un certain nombre de choses et là aujourd'hui, je peux avoir un avis à défaut d'avoir un jugement. Écoutez, lorsque vous entendez, et je parle par rapport aux scientifiques qui nous donnent des informations, lorsque vous entendez M. Perron qui dit que les tests, il y a un problème avec les tests, on s'interroge. Lorsqu'on entend M. Toubiana dire qu'il y a aussi un problème avec les tests par rapport au nombre de passages, j'ai un problème, je réfléchis. Lorsque j'entends M. Toussaint dire qu'on prend des décisions non en fonction de la réalité, etc. On s'interroge, etc. Aujourd'hui, je pense vraiment qu'il y a un problème avec l'information, avec la démocratie, et qu'on nous raconte des salades. Pardonnez-moi, je suis pas conspi, je m'interroge.
Ouais.
Je m'interroge. Et aujourd'hui, tous les gens qui sont dans ma situation, nous sommes des citoyens, on s'interroge. Pourquoi le gouvernement ne dit pas qu'on merde sur les chiffres, qu'on fait des conneries ? Pourquoi on reprend pas les choses à zéro ?
Alors, sur les tests, c'est intéressant. Le docteur Toubiana, qui est spécialiste, va vous répondre, en fait, sur les tests, alors. Que dit Chris ?
Eh bien, je suis... D'abord, je ne peux pas me prononcer sur les mesures prises. Hein. Nous sommes d'accord, les mesures, ce sont des mesures sanitaires qui sont prises. Moi, je constate qu'elles sont prises avec des chiffres qui, eux, sont totalement délirants. Et j'en ai déjà parlé.
Ouais.
Et ce que nous avons signé, je ne suis pas seul à avoir signé ce papier, nous sommes 300 chercheurs à avoir signé une tribune qui disait, qui a été censurée d'ailleurs, et qui disait qu'il était urgent de changer de stratégie sanitaire face au Covid-19. Mmh. Or, on avait fait une autre tribune avant qui disait arrêtons de gérer cette crise par la peur. Eh bien, je constate que les deux tribunes n'ont absolument pas été entendu, puisque...
Bon, mais,
d'une part,
répondez, est-ce que les tests sont fiables ou pas ?
Alors, la fiabilité des tests est un peu en doute, mais surtout, si vous voulez, le problème principal, c'est qu'il ressort de tout ça, et je l'ai dit tout à l'heure, très, très, très peu de cas, si vous voulez. Le pire, alors, sur les tests, c'est que aujourd'hui, on met en place des mesures très fortes. Mais ce que l'on observe quand on regarde les courbes, c'est que ça baisse.
Ouais.
Le nombre de tests baisse, c'est-à-dire que de moins en moins de gens vont voir les vont se faire tester,
dans les labos,
oui. Mais en plus les tests positifs baissent eux aussi, et ça partout. Et ce que je peux vous dire,
là,
c'est
qu'il y avait quand même 12 000. Donc,
oui, mais 12 000. Écoutez,
non, mais je sais bien.
Hier,
mais
il y en avait 15 000, etc. Ouais. Au jour le jour, on a déjà dit, on ne va pas revenir sur cette question. Ouais. Si vous voulez, nous sommes affublés de chiffres qui complètement sortis de leur contexte, ouais. Qui ne signifient rien. Moi, j'ai essayé de donner des explications sur la dynamique d'une épidémie, mais je ne peux pas vous commenter chaque chiffre, chaque jour, ouais. chaque nouveau. Indice ou inventé comme ça qui va. Mais ce que je peux vous dire pour Marseille, c'est que le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de gens positifs, de personnes positives sur le nombre de tests, baisse depuis le 13 septembre. Ouais. Or, des mesures ont été mises bien plus tard.
Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, il y a.
Grégory aussi qui est avec
Grégory.
Nous. Bonjour Grégory.
Bonjour Grégory.
Bonjour. Difficile de passer après le professeur, mais pour les tests, il faut savoir que la France multiplie par 50 le virus qui est dans les tests, alors que l'OMS indique qu'il faut multiplier seulement par 20. Donc c'est pour ça qu'ils trouvaient à un moment donné beaucoup de cas positifs. Mais le gros problème en France, c'est que les politiques ont menti dès le départ. Et après, sortir d'un mensonge, c'est impossible. Et donc là, ils sont en train de ramer pour essayer de dire on a menti, mais il ne faut pas nous reprocher, on va dire.
Ah oui,
c'est à peu près ça, je trouve. C'est, ils nous ont menti depuis le début. Et là, ils sont en train de ramer pour essayer de ramener, de se faire passer pour des blanches colombes, on va dire.
Oui. Alors ça, c'est plus une réflexion, Grégory. Comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va apprendre aussi Yolande, qui est avec nous.
Bonjour, Yolande.
Sur une question. Bonjour Yolande.
Bonjour à tous. Et merci pour cette émission. Alors je suis d'accord avec tout ce qui a été dit là.
Oui. Hein.
C'est vrai qu'on nous met une pression énorme dessus, que les chiffres sont contestables au possible. On ne sait plus à qui se fier. Mmh. Et on a de merveilleux scientifiques, des chercheurs qui travaillent et qui ne sont pas suffisamment entendus. Moi, je trouve qu'on doit s'adresser là à la source, et la source actuellement, ce sont les scientifiques et les chercheurs.
Ouais.
On n'a pas besoin d'intermédiaires, de journalistes, de gens qui dramatisent les choses. On est dans le flou total et on a besoin d'informations justes.
Ah bah Yolande, c'est ce qu'on essaie de faire en donnant la parole justement un peu à tout le monde, quoi. Non ?
Alors, non, mais c'est vraiment ce qu'on a besoin. Et merci de donner la parole à ce sujet. Moi, je voulais vous demander, puisque en fait, on n'est pas tous concernés de la même façon par ce virus. Et il y a des gens qui sont vulnérables et qui devraient être mieux protégés. Comment les protéger ? Parce que si on protégeait les gens vulnérables, en fait, nous, on saurait peut-être libérer les gens moins concernés par le virus, on serait moins concernés par des contraintes, et on pourrait axer justement les gestes médicaux et les protections aux gens à risque.
Ouais.
Comment
faire donc on va essayer de vous répondre avec le docteur Toubiana. Oui.
Bien, ce que vous avez dit est parfaitement vrai.
Approchez-vous du micro.
Ce que vous avez dit est parfaitement vrai. Et d'ailleurs, nous l'avons écrit dans notre fameuse deuxième tribune. C'est qu'au lieu de mettre une sorte de cataplasme sur l'intégralité de la population, effectivement, on ferait bien de s'occuper des personnes à risque, et on connaît les facteurs de risque, on les connaît parfaitement. Donc c'est ces gens-là qu'il faut protéger et laisser, de mon point de vue, libres tous les autres. Ce que l'on peut aussi penser, si vous voulez, c'est que la médecine, depuis des années, essaye de faire ce qu'on appelle une médecine individualisée. Et là, on nous démontre qu'il faut appliquer à tout le monde exactement la pire des mesures. Donc, on est complètement à rebours de tout ce que l'on a pensé, réfléchi, etc., depuis des années. Mais pour ce qui concerne, je vais juste aller un tout petit peu plus loin, c'est qu'effectivement, la personne qui vous a dit tout à l'heure qu'ils avaient menti et que c'était une
Grégory.
Réflexion.
Grégory, oui.
Il est clair que, effectivement, en étant extrêmement pessimiste et en envoyant des messages très alarmistes, on gagne presque à tous les coups, si vous voulez. On gagne à tous les coups parce que si l'événement n'arrive pas, on vous dira que c'est grâce à nous, on a prévenu de quelque chose, on a mis en place des mesures et hop, ça n'arrive pas. Et si l'événement arrive quand même, eh bien on dira, ils diront, on vous avait prévenu. Alors que dans la position de quelqu'un qui tente de rassurer un peu les gens, bien que le terme ne me plaise pas beaucoup, eh bien, c'est beaucoup plus difficile. On prend beaucoup plus de risques en ayant cette démarche-là. Parce que là, nous, on perd beaucoup si ça se passe mal. Mais en réalité, ce que je peux vous dire, c'est que la deuxième vague, très probablement, n'arrivera pas. Et ce n'est pas à cause des mesures, c'est parce que mécaniquement, si vous voulez, dynamiquement, elle n'arrive pas. Et j'ai donné l'explication tout à l'heure.
Oui, c'est vrai. Mais d'une question quand même, parce que c'est vrai qu'il y a de la peur de beaucoup de personnes qui se disent « Est-ce que je suis à risque ou pas ?» On ne le sait pas encore. Quoi.
Si, on le sait.
On le sait.
Alors, il se trouve que
justement... Parce que c'était la question de Yolande qui disait
oui. Mais bien sûr qu'on le sait.
Certaines personnes ne savent pas qu'elles sont malades.
Ouais. Elles ne savent pas qu'elles sont malades, mais elles peuvent savoir si elles sont à risque ou pas. Et d'ailleurs, nous avions créé...
Comment ça va, dans mon laboratoire,
dès le début, nous avons accès à des données hospitalières et avec un peu d'intelligence artificielle, nous avons créé ce qu'on appelle un risk assessment tool, c'est-à-dire un outil d'évaluation du risque des gens. Et il suffit de remplir son profil, un profil pour avoir globalement le risque que l'on a d'aller à l'hôpital, d'aller en réanimation ou de mourir.
Ouais. Et faire une forme grave en tout cas.
Faire une forme grave ou même...
Si il est où cet outil ? Est-ce qu'il a été diffusé ?
Il est en ligne depuis 6 mois et
Sur quel site ?
Sur le site de l'IRSAN. IRSAN.
Oui, IRSAN, c'est bien de le dire. Oui, effectivement.
Oui, il s'appelle, alors c'est écrit en gros, ça s'appelle CRAC. Ouais. C'est Covid Risk Assessment Calculator. Bon. Et donc, ce truc-là vous permet d'avoir une idée de votre risque. On l'avait mis en ligne presque pour le fun, parce que ce genre de risk assessment tool est utilisé dans le cancer, est utilisé un peu partout. Donc on s'était dit, tiens, on va faire la même chose avec ça. Et cet outil s'enrichit au fur et à mesure des nouvelles données que nous avons, et nous pouvons très précisément calculer le risque de chaque individu.
Et ben voilà, merci.
C'est
une bonne nouvelle. Merci docteur Toubiana, chercheur et épidémiologiste à l'INSERM. Vous pourrez écouter évidemment cette interview ou en podcast. Nous donnons la parole à tout le monde sur Sud Radio et voilà, je sais que certains ne vous la donnent pas, mais nous...
On la donne à tout le monde.
Oui, absolument.
Et
parlons vrai sur Sud Radio.
Dans un instant, à un mentaliste.
Oui, alors ça va changer un petit peu. Pendant quelques minutes, parce qu'il est en spectacle. Allez, dans un instant.
Restez avec nous, 9h51.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h54 pour bien démarrer la semaine. Eh bien, nous sommes avec Léo Brière. Bonjour Léo.
Bonjour.
Vous êtes mentaliste et illusionniste.
Oui, absolument.
Moi, j'adore ça, hein, je vous le dis tout de suite. Là, vous l'avez déjà vu, il était demi-finaliste en 2018. La France a un incroyable talent. Et en pestacle, voilà, vous êtes en spectacle avec Sud Radio au théâtre Trévise. C'est ça.
Exactement. C'est un plaisir de remonter sur scène vu la situation et d'être.
Oui, c'est sûr. Ouais. Oh, mentaliste, j'adore ça, moi. J'adore ça. Ça veut dire qu'il lit dans vos pensées, Patrick. À quoi pense-t-il ce matin, Patrick Roger ? On ne sait pas.
Là, c'est difficile parce que vous êtes à distance, quoi, Zoom.
C'est ça, on est à distance et en plus, même en réalité, on ne peut malheureusement pas lire dans les pensées. En tout cas, on donne l'illusion de lire dans vos pensées.
Oui, c'est un travail. Il faut combien de temps pour pouvoir avoir ce pouvoir magique ? C'est un travail de longue haleine ?
Oui, c'est un travail de plusieurs années. Sur le principe, tout le monde peut apprendre à devenir mentaliste. Il n'y a pas de don, je ne suis pas voyant, je ne suis pas médium. Tout le monde peut vraiment faire ça. Mais c'est des techniques à travailler avec plus ou moins de réussite, donc ça prendra plus ou moins de temps. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'en fais.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça ?
À l'origine, je faisais de la magie. Ouais. Je trouvais ça.
Ça, c'est bien. C'est bien pour les filles dans la cour d'école à la base.
C'est ça aussi. Et ouais, la magie, c'est bluffant, mais quand vous voyez un tour, vous savez directement qu'il y a un truc. Ouais. Alors que lorsqu'on fait une expérience de mentalisme, quand on va lire dans les pensées, on va prédire vos choix. Et ben là, on a l'impression qu'on a pénétré votre esprit et ça devient beaucoup plus fort pour vous qui vivez l'expérience. Ouais. C'est pour ça que je me suis intéressé plus particulièrement au mentalisme.
Ouais. Est-ce qu'il y a des personnalités, lorsque vous êtes sur scène, est-ce que vous voyez des personnalités où vous dites, elle sera plus susceptible de jouer avec moi et d'être plutôt réceptive, et des personnes qui sont totalement réfractaires ?
Alors oui, il y a différents types de personnalités. Il y a des personnes avec qui on peut aller beaucoup plus loin que d'autres. Ça, c'est vraiment aussi une question de ressenti. Et c'est vraiment aussi, comme le spectacle est très interactif, lorsque je commence une expérience, je ne sais pas exactement où est-ce que je vais aller, je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout de celle-ci, et au pire, ça va changer en cours d'expérience.
Ah oui, c'est ça, parce que différent chaque soir. Parfois, vous dites, oulala, mais là, je ne vais pas poursuivre, sinon ça va être une catastrophe, quoi, non ?
C'est un peu ça, il y a des fois, l'expérience peut être plus rapide, et il y en a d'autres, donc chaque jour, c'est un spectacle différent.
Et c'est ça qui est génial, c'est qu'effectivement, vous pouvez aller voir un spectacle de mentalistes. Moi, j'avais fait appel à des mentalistes pour venir à la maison pour des soirées et tout. C'est génial. C'est vrai, que, c'est vrai qu'on reste toujours des enfants, des petits-enfants face à ce joli métier.
Et ce que vous dites, hein, c'est aussi que finalement, l'être humain n'est pas capable d'utiliser plus de 10 ou 20% de ses capacités cérébrales. Et vous, vous travaillez ça pour essayer de...
De pousser les limites.
Oui, de pousser un peu les limites, quoi. C'est ça votre travail.
Voilà, cette théorie des 10% de l'utilisation de nos capacités cérébrales, c'est le point de départ du spectacle.
Moi, je suis à fond, justement... personnellement, je vous le dis tout de suite, hein. Je ne peux pas faire mieux.
Alors justement, ce que j'explique, c'est est-ce qu'on utilise réellement que 10% ou est-ce qu'on l'utilise plus ? Est-ce que cette théorie est vraie ? Est-ce que cette théorie est fausse ? Et il y a la réponse dans le spectacle.
Voilà, c'est ça. C'est au théâtre de Trévise, à Paris. Et il faut venir à Paris tous les jeudis, vendredis et samedi à 21h30.
C'est un show exceptionnel, non, avec des effets pyrotechniques. Ouais. Enfin bref, il faut vraiment aller le voir.
Avec masque ou sans masque, alors ?
Avec masque, bien évidemment.
Avec masque,
On respecte toutes les mesures. C'est un spectacle très interactif, mais il y a du gel. Les gens peuvent monter sur scène en toute sécurité. Ouais. Et on fait tout ce qu'il faut pour que les gens oublient un petit peu cette période, mais en toute sécurité.
En tout cas, on est très contents d'être partenaire de ce joli spectacle. Merci beaucoup, Léo Brière, d'avoir été
avec nous.
Merci
à vous.
Et à très bientôt. On croise les doigts pour qu'il y ait du monde, beaucoup de monde, et que ça dure.
Et que vous puissiez faire la tournée après en France. Dans un instant, Valérie Expert qui va recevoir le comédien Arié Elmaleh. Absolument. Ensuite, les cyclistes sont-ils des chauffards ? On prend le problème un petit peu à l'envers à 10h30 et puis les débats et des débercov sur le pont ce midi, évidemment jusqu'à 14h.
Et nous on vous retrouve demain matin, 9h58,
ciao, ciao.
Salut.